all your base are belong to us.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à L'Heure Geek, le seul unique podcast radiophonique de l'Université du Québec à Chicoutimi qui parle de tout ce qui est geek, que ce soit jeux vidéo, films, télé, whatever. Je suis Fred, votre hôte.
Et François, votre deuxième hôte.
Et aujourd'hui, c'est le moment, François.
Oui, Frédéric, c'est le moment.
On commence en force. Aujourd'hui, on a une super belle émission. Excusez-moi, j'ai enlevé ma gomme.
Oui, s'il te plaît.
On a une super belle émission de prévu pour vous. On va commencer notre top 10 des films de l'année. Cette semaine, on va faire position 10 à 6. Ensuite, la semaine prochaine, 5 à 1. Et ensuite, pour ceux-là d'après, pour la semaine d'après, on va faire nos top 10 de nos films de la décennie.
Yep. On va en avoir beaucoup à dire. Mm-hmm. Puis aussi, pour notre top 10 de nos films de l'année, position 10 à 6, les films dont on a parlé déjà vraiment beaucoup, ben on n'en parlera pas trop. Mm-hmm. Par contre, sur notre liste, on a beaucoup de films ici dont on n'a jamais parlé à L'Heure Geek. Ça fait que je crois que ça va être une bonne idée de creuser plus en profondeur sur certains d'entre eux.
Oui.
Bon, c'est avec Frédéric que ne perdons pas plus de temps. On va commencer par... Tu vas dire...
Ça prendrait un soundbite genre de Mario Odyssey, là. Une moon là pour quand c'est nos positions. Ok, numéro 10. Pour moi, il s'agit d'un film qui est sorti sur Netflix.
Exclusivement sur Netflix.
Mettant en vedette Eddie Murphy.
Oh!
Que j'ai trouvé très bon. Il s'agit de Dolomite Is My Name. Oh.
Frédéric, raconte l'histoire de Dolomite Is My Name.
Dolomite Is My Name, dans le fond, c'est l'histoire du comédien Rudy Ray Moore.
Qui est Rudy Ray Moore?
Rudy Ray Moore, dans le fond, c'était un acteur, un humoriste des années 70 qui avait un style d'humour assez particulier où c'est que les phrases rimaient, puis c'était vraiment de l'humour afro-américain qui marchait énormément auprès des afro-américains. Et à un moment donné, Rudy Ray Moore, ce qu'il a décidé de faire, c'est il a dit « Je vais me lancer en cinéma, je vais faire un film. » Parce que lui, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'est être une vedette. Il voulait être une vedette. Fait que, il avait sorti des albums humoristiques, il avait eu quand même du succès.
Mm-hmm.
Fait qu'il a demandé à son label d'y prêter de l'argent pour financer son film. Et dans le fond, c'est tout le long du film, c'est le tournage, c'est Rudy Ray Moore, puis... ça m'en va d'être aussi Wesley Snipes, qui est vraiment, vraiment, vraiment très drôle dans le film. Sincèrement, je savais pas que Wesley Snipes pouvait être drôle de même. C'est vraiment très bon.
Le monde ne le savent pas, mais Wesley Snipes, c'est un acteur assez versatile quand
ouais.
même.
Oh, ouais, il peut faire du drame, il peut faire de l'action.
Il peut jouer aussi une drag queen.
Oui.
Comme dans le film, je pense que ça s'appelle To Wong Fu... En tout cas, peu importe le film, avec John Leguizamo et Patrick Swayze, où les trois s'habillent en drague. Et oui, en passant, ce film existe, mesdames et messieurs. Si vous voulez voir quelque chose d'assez comique et d'assez particulier, louez ce film-là. Le titre m'échappe pour le moment, mais nous allons probablement vous y revenir un jour.
Oui. Dans le fond... C'est le tournage de son film qui s'appelle Dolomite.
Et Dolomite, j'imagine que c'était un personnage qui jouait sur scène.
Oui, Dolomite, dans le fond, c'était comme le nom d'un personnage dans son style d'humour.
C'était un pimp.
Ouais, c'était comme un pimp. C'est quelqu'un d'extravagant qui il baisait plein de monde. Puis nanana, nanana, nanana. Ah, le film que tu parlais, c'est To Wong Fu, Thanks for Everything.
Oui,
fait que c'est ça.
son personnage dans les mythes, que c'était un pimp. Puis aussi, je pense que c'est lui qui a inventé des expressions comme « Bitch, are you for real? »
Ouais.
Ça vient de tout. Si vous avez entendu un humoriste dire « Bitch, are you for real? » ça vient de Rudy Ray Moore, son ouais. personnage de Dolomite.
Oui, puis dans le fond, son film a eu énormément de succès. Puis ça a commencé une carrière auprès... Une carrière au cinéma que ça a duré tout le temps, je pense, de la période Blaxploitation, le peak Blaxploitation. Il a fait Dolomite Is My Name, il a fait The Human Tornado, il a fait The Amazing Disco Godfather, il en a fait plein. Puis dans le fond, c'était un film qui était tourné entièrement guérilla. où c'est que c'était tourné avec les moyens du bord, puis il disait « Ah, moi, je veux... Ah, les gens au cinéma, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent de l'humour, ils veulent de l'amour, puis ils veulent du kung-fu. » Mais le gars, genre, il a aucune... Tu sais, là, il a aucun skill en arts martiaux. Fait que c'est tout le temps awkward, tout le temps malaisant.
Il est pas très, très en shape non plus
non.
pour faire du kung-fu.
Non.
Là,
tu regardes des clips... Puis il était vieux quand il a perçu au cinéma.
Tu regardes des clips de Dolemite, genre... Puis le gars, quand il donne ses punches, là, ça a l'air faible, ça a l'air fake.
Ouais,
mais
pas...
c'est quasiment ça qui est drôle. T'sais, les films Blaxploitation, ils étaient comme ça. À part ça, Fred, vu qu'on parle de Dans les mythes, Dans les mythes is my name, peut-être qu'on devrions passer peut-être quelques minutes à parler de l'histoire des films Blaxploitation.
En fait, ça, c'est quelque chose qui mériterait son propre épisode.
Ouais. T'sais, aujourd'hui, on
va en parler grossièrement.
Ouais. T'sais, les films, on a l'époque super-hero exploitation, si on pourrait dire.
Cette période qui ne finit plus.
Qui ne finit plus et que ce serait le fun que ça finisse un jour. Oui, mais dans les années 70, dans le fond, quand on dit le mot black exploitation, ça veut dire cela. Dans les années 70, il y avait une période. Au début des années 70, il y avait une période où il y avait. Des Afro-Américains, qu'eux autres, ils faisaient des films tournés par des Afro-Américains pour des Afro-Américains.
Oui, parce qu'il y avait de la misère à connecter avec
le public blanc ou avec, mettons, les producteurs d'Hollywood, que bien sûr, à l'époque, il y en a plusieurs qui étaient racistes. Mm-hmm. Ça fait qu'ils donnaient peu de rôles importants à des réalisateurs Afro-Américains et également à des acteurs Afro-Américains. Ça fait que
Ils ont créé leur propre cinéma.
Ils ont créé leur propre cinéma. Et mon Dieu, mesdames et messieurs, là, vous devez vous dire, ah, ça devait être des succès boboches au cinéma. En fait, non. Les films Blaxploitation cartonnaient à mort au box-office. En fait, vous avez aucune idée. Le film, vous avez juste regardé les recettes au box-office du film Shaft. Et vous allez être assez surpris. C'était un
Damn
cinéma.
Right. Damn right.
C'est des films là, que ça marchait aussi, ça marchait terriblement au cinéma. Les films notoires Blaxploitation, le tout premier film Blaxploitation, qui fut Sweet Sweetback's Badass Song, réalisé par Melvin Van Peebles, mm-hmm. le père de Mario Van Peebles. Mm-hmm. Et aussi, malheureusement, il a attrapé, une maladie transmissible sexuellement en tournant le film Sweet Sweetback's Badass Song.
Oui, parce que puisque c'était tourné avec les moyens du bord, il n'y avait pas de budget pour avoir un body double pour les scènes de sexe. Fait que les scènes de sexe, c'était des vraies scènes de sexe. Puis après ça,
il a contracté, je pense qu'il a contracté genre l'hépatite B ou bien quelque chose, ou ben la gonorrhée, quelque chose dans le même. Là.
Puis après ça, il y a eu Foxy Brown avec Pam Grier.
Pam Grier.
Il y a eu Shaft, il y a eu ben, les films de Rudy Ray Moore, bien sûr. Il y en a eu plein.
Put your weight on it!
Ouais, ça a vraiment marché au cinéma. Pis...
What does it head?
Ouais, il y a vraiment une drôle de façon de parler. Puis Dolomite is my name, c'est... Eddie Murphy dedans, il est super bon.
Ah oui, puis il y a eu aussi Superfly dans les films Blaxploitation.
Oui.
Puis, oh mon Dieu, puis tu parlais de Pam Grier. C'est tout ce que vous connaissez de Pam Grier, de l'actrice Pam Grier, c'est des séries comme... The L Word, puis le film Jackie Brown. Mais laissez-moi vous dire, vous ne connaissez pas grand-chose de sa carrière, parce que la mademoiselle est occupée depuis...
Les années 70.
Les années 70. Et dans les années 70, ouh, maman, qu'elle était sexy! Mm-hmm. Même avec son énorme afro, elle était quand même très, très, très sexy.
Après ça, fait que c'est ça, c'était très bon, je vous le recommande fortement, c'est sur Netflix. La musique est bonne, les acteurs sont bons, surtout Eddie Murphy et Wesley Snipes. Puis j'ai vraiment aimé ça. Toi, Franck?
Frédéric, est-ce que tu dirais que peut-être Eddie Murphy a été snobé aux Oscars et aux Golden Globes?
Oui.
Oui,
oui il l'a été. Oui, il l'a
été. C'est plate, hein? Quand Eddie Murphy se force et il fait vraiment un bon film, là, il n'est jamais tant récompensé.
Non.
Hein? C'est triste, c'est tout. Il faut faire attention à ces... Il faut bien s'en occuper de ces acteurs-là. C'est comme, mettons, Robin Williams. Quand il faisait un bon film, il passait complètement sous le radar. Mm. Robin Williams, il avait fait World's Greatest Dad au début de la décennie. Non, genre en 2008, et ça a complètement passé en dessous du radar. Mais par contre, je peux t'assurer que les fous de la... comment ça s'appelait? Les fous de la moto VR. Puis, comment ça s'appelle? Un film qu'il a fait récemment avec John Travolta où il faisait comme... À un moment donné, il y a un bout où ils se font attaquer par des pingouins dans Old Dogs.
Ouais.
Ça, je peux t'assurer que ça n'a pas passé inaperçu, mais genre, des films comme World's Greatest Dad, Non. Ça, ça passe inaperçu. Même affaire comme Eddie Murphy. Dolemite is my name, ça passe inaperçu. Mais hey, Pluto Nash, ça, je peux t'assurer que. Hey, on en parle encore de Pluto Nash. Hey.
On l'a pas oublié.
Eh non, un grand classique, ce Pluto. Pluto Nash. Bon, à mon tour maintenant, 10e position. Moi, c'est assez différent. C'est, toi, c'est une comédie. Moi, c'est un film d'horreur. Il s'agit du film Pet Sematary. Remake de l'original. Remake du film original. Et toi, c'est une comédie, bien sûr. Moi, c'est, je ne peux pas passer à côté de ma liste des meilleurs films de 2019 sans mettre un film d'horreur sur la liste. Mm-hmm. Et bien sûr, l'histoire de Pet Sematary, en version française, c'est Cimetière vivant. Dans le fond, l'histoire, il s'agit d'une famille qui déménage dans une nouvelle maison. Mais pas loin de leur maison, il y a un cimetière pour animaux où, si, mettons, ton animal meurt, ben, tu peux aller l'enterrer là-bas. Tu peux aller l'enterrer là-bas et ton animal va revenir à la vie. Et un jour, la famille, il leur arrive un grave accident de voiture à leur petite-fille et elle meurt. Et le père, il décide de faire l'irréparable. Il décide d'aller enterrer leur petite fille dans le cimetière des animaux, ce qui cause leur petite fille à revenir à la vie et à devenir un zombie. Et là, vous devez vous dire, oh, encore un film de zombie. Eh bien, vous avez pas tort, mais Pet Sematary, encore une fois, c'est un remake. Mais comme film de zombie, c'est assez différent. T'sais, les zombies sont pas, mettons, ce sont pas comme dans tous les films de zombies où ils te sautent dessus et essaient de te bouffer à la chair. Non, dans celui-là, t'sais, les zombies, ça n'a pas vraiment rapport. T'sais, l'aspect zombie du film arrive vraiment tard dans le film. Arrive vraiment tard. Le gros noyau du film, c'est vraiment la relation entre le père puis le vieillard joué par John Lithgow. Mm-hmm. Ça, je trouve vraiment que c'est vraiment la grosse force du film. Puis aussi la relation qu'il a avec sa famille. Et à quel point le père, il commence, c'est très bon père de famille. Mais dès que l'accident arrive avec sa petite fille, le père, il change complètement. Puis il devient. Il fait comme partir une espèce de. Il fait comme tomber sur une espèce de petite descente aux enfers. Qui, à la fin, là, vraiment, là, tout dégringole. Puis c'est vraiment. C'est vraiment un excellent film d'horreur. J'ai entendu du monde dire que le film était juste pas si pire que. Il y a du monde qui était genre « Oh, c'est pas tant bon. Oh, c'est pas tant bon. » Moi, j'ai vraiment été surpris. Genre,
moi aussi.
Du monde qui ont juste trouvé ce film-là, mais...
Moi aussi, sérieux, c'est... J'ai aimé comment ce film-là était froid.
Oui, c'est un film extrêmement froid, Pet Sematary.
Surtout la fin, là, c'est comme tu vois la fin, tu fais « Oh! »
Moi, j'ai adoré la fin. Puis aussi, un truc que j'espérais, c'est l'original, le générique de fin. Dans le générique de fin, le film se finit sur une chanson des Ramones. Mm-hmm. Et bien dans ce film-là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont reprendre la même chanson? Est-ce qu'ils vont reprendre la même chanson? Et oui, ils l'ont repris, mais cette fois-ci, elle est pas chantée par The Ramones.
Bien sûr.
Elle est chantée par The Starcrawler, et laisse-moi te dire. Je sais pas si on a le droit de décerner genre des prix comme chanson punk de l'année à des tonnes de covers. Oui, à des covers, mais je vais t'avouer que celle-là, je lui donnerai la palme sans problème.
Moi aussi, j'ai vraiment aimé le film Pet Sematary. C'est vraiment l'aspect froid du film que j'ai vraiment aimé. Surtout la fin.
Ah, la fin est vraiment
troublante. Hein?
Elle est troublante, puis comparé à l'original, les deux fins sont assez troublantes.
Oui, mais c'est ça. C'est un bon film d'horreur. Mais moi je l'aurais pas mis dans mes mentions honorables. J'ai mis Histoire de jouets 4.
Mm-hmm.
Puis je mettrais aussi Child's Play.
Oh, le nouveau Chucky.
Le film de Chucky.
Moi aussi. Le nouveau Chucky, j'ai énormément hésité à le mettre sur la liste. Puis ça m'étonne parce que pour un remake, pour un remake, ça a été assez surprenant.
Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aimé le remake de Child's Play parce que il est drastiquement différent.
Et justement, en fait, il est tellement différent que tu te demandes pourquoi même appeler ça Child's Play. Il n'aurait pas pu y donner un autre nom.
Ouais, sérieux, t'aurais pu faire un autre jouet totalement différent.
Un Jojo Lapin.
Ouais.
Parlant de Jojo Lapin, il y a le film Jojo Rabbit qui se rend aux Oscars, que malheureusement, on n'a pas vu.
Non.
Ça fait qu'il va falloir remédier à cela.
Oui. Moi, j'avais... Sérieux, Child's Play, j'avais vraiment aimé. J'avais aimé le concept que Chucky, ben, à la place que ça soit un esprit, puis tout, t'enlèves le côté fantastique. Puis à la place, c'est vraiment drôle. Puis il y a des bouts qui sont vraiment fucked up, puis troublants, comme quand il fait jouer les sons du chat pendant qu'il le tuait, puis il est dans le coin avec ses yeux rouges. Là.
Oh,
c'est comme,
oh.
Ah, puis le fait que j'ai bien aimé le fait que c'est comme un genre de Google Home.
C'est un cloud démoniaque.
Ouais.
Dans puis, le cloud du play.
Puis direct au début, il te montre comment le jouet est fait, genre comment ça se fait qu'il est devenu démoniaque. C'est comme, ok, ouais, tu sais, il n'y a pas de, un y a pas de mystère.
Un employé d'usine en Chine qui est misérable, qui se fait renvoyer, ça fait qu'il fait. Il fait en sorte que la poupée va devenir complètement déréglée, puis ensuite il se suicide.
Ouais. Bon, moi pour 9e position. Il s'agit d'un film que je sais pas s'il y en a qui vont être d'accord, mais moi j'ai vraiment adoré ce film-là. Je sais qu'il y a du monde qui ont dit que c'était un film qui était pas nécessaire puis que ça nous apprenait rien vraiment de nouveau, mais j'ai aimé voir la fin de cette histoire-là.
Puis aussi il y a du monde qui disent tu sais ce film-là tu peux pas le mettre dans des listes de meilleurs films d'année parce que c'est comme mettons le dernier épisode d'une série télé mettons là. Puis moi je suis hautement en désaccord.
Mm-hmm.
Je suis hautement en désaccord et je suis 100% d'accord avec toi. Moi, ce film-là, je l'ai mis en 6e position sur ma liste. Il s'agit du film El Camino, A Breaking Bad Story.
Oui, oui. Puis en passant, juste un petit disclaimer sur les mini-séries. Juste pour vous dire que les mini-séries, vraiment la mini-série où c'est que c'est juste une saison puis c'est clair qu'il n'y en aura pas d'autres, c'est éligible.
Pour les meilleurs films de l'année.
Oui, parce que dans le fond, c'est un film qui est segmenté.
Ouais, c'est quasiment comme un long film. Mettons, c'est comme The Irishman. Si The Irishman serait une mini-série, est-ce que vous le mettriez dans vos meilleurs films de l'année? Moi, oui.
Mm-hmm.
Mais The Irishman, malheureusement, c'est un long film de 3h30. Et quand on parle de mini-série, on parle, mettons, également des séries comme, mettons, Chernobyl. Chernobyl, ça pourrait être éligible comme meilleur film de l'année parce que c'est quasiment comme... C'est un long film de 6 heures.
Mm-hmm. Fait que El Camino, mettant en vedette...
C'est quoi déjà son nom?
Aaron Paul. Aaron Paul. Aïe, aïe.
Ça finit bien une série.
Oui, vraiment.
Ça finit bien une série. Dans le fond...
Ça finit très bien la meilleure série de tous les temps.
Ouais. Inquiétez-vous... Oh oui, oups, on l'a dit. Mais inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs, on vous spoilera pas le film. Dans le fond, l'histoire, c'est ce qui se passe au personnage de Jesse Pinkman. Littéralement, immédiatement, la minute près... que Breaking Bad se termine.
Mm.
C'est comme si, genre, il avait tourné le film immédiatement après avoir fini la série. Hein, tu sais, le film colle tellement bien avec la finale de la série. Tu sais, la série était vraiment focussée sur... tu sais, elle était focussée sur Jesse aussi, mais beaucoup plus sur Walter.
Bien sûr.
Tant que le film, El Camino, est 100% focusé sur le personnage de Jesse Pinkman.
Mais on voit quand même. Il y a quand même des bouts, c'est qu'on voit Walter. Il y a
ouais,
des...
tu sais, en flashback, bien
on
sûr.
On voit Jake aussi. On voit Badger. On voit Todd. Skinny. On voit toute la bande.
Mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le chant du cygne à Jesse Pinkman.
Le seul personnage qu'on voit pas en tout, c'est Saul.
Ben, c'est normal.
Saul, on le voit pas en tout. Normal. Saul, là, il est complètement disparu. Puis, c'est moi, j'ai adoré le film. Sincèrement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça.
C'est pas juste, mettons, un bon, mettons, entre guillemets, c'est pas juste, mettons, un bon épisode final d'une série. C'est également un très bon film.
Oui.
Pour être bien franc, là, tu sais, au départ, je vais vous faire une confession. La première fois que j'ai vu El Camino, je l'avais regardé sans avoir fini Breaking Bad. Je voulais vraiment le voir, El Camino. Je voulais vraiment le voir. T'sais, je voulais pas être derrière les autres côté tendance, pour une fois dans ma vie. Ça fait que ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, ben regarde, je vais regarder El Camino, même si j'ai pas fini Breaking Bad. Breaking Bad, il nous restait encore quoi, 2 saisons?
Oui.
Il nous restait 2 saisons. C'est que je m'étais quand même assez massivement spoilé la série. Mais ça m'a pas dérangé parce que le film, je l'ai quand même trouvé excellent. Et non seulement ça, mais je l'ai réécouté après avoir fini la série. C'est que là, c'est comme spécial. J'ai comme deux points de vue différents sur le film. J'ai le film en n'ayant pas terminé la série et j'ai le film en ayant terminé la série. Mm-hmm. Et laisse-moi te dire, le film a encore plus de punch si tu as terminé la série.
Mm.
Ça, je peux le dire.
Oui. Puis C'est, je pense que c'est le dernier rôle de Robert Forster.
Oui, c'est le dernier rôle de Robert Forster avant qu'il meure, que Dieu ait son âme.
Il y a tellement la scène quand là, il veut lui donner son argent là, pour le faire disparaître. Là. OK, bon. Hello, you're the guy. Hello, you're the guy. Il le regarde puis il bronche pas. Il dit OK, OK, c'est bon. Il sort son argent. Puis il dit This is for the first pickup. Yes!
What?
Ah, c'est tellement bon. Hein. C'est les, toutes les scènes sont bonnes. Les scènes de flashback sont bonnes aussi.
Et encore une fois, même les nouveaux personnages qui introduisent dans le film et seulement pour le film sont intéressants. Mm. Comme, mettons, les deux policiers,
ouais.
Entre guillemets, les deux policiers. Aussi, tu parlais du personnage qui tombait ses nerfs. Le vieux monsieur qui s'occupait du building où ouais. L'argent était caché. Ouais. Genre. Qui essaye d'être un détective, c'est genre... va-t'en, va-t'en. Maudit senteux, moi. Désolé, moi, j'aime pas ça. J'aime pas même ça, le monde qui sont senteux.
Non.
Que ce soit dans les films ou dans la vraie vie, j'haïs ça. Mêlez-vous de vos affaires.
Après ça, 9e position pour toi.
9e position pour moi, c'est un film... Enfin, on va pouvoir en parler de ce film-là. C'est un film qu'on a vu tout récemment. Mm-hmm. Il s'agit du film 1917, réalisé par Sam Mendes. Là, je sais que vous devez vous dire, mais voyons, 1917 est sorti en 2020. Eh bien non, vous vous trompez. 1917 est sorti lors des tout derniers jours du mois de décembre.
Oui. Dans le fond, là, pour qu'un film soit éligible pour Netflix, il faut qu'il soit sorti d'une façon ou d'une autre en 2019.
Si c'est un film étranger et il est sorti en 2017, disons, en France, mais en 2019, il est finalement arrivé en Amérique du Nord, eh bien, ça compte. Mm-hmm. Eh bien, exact. Eh bien, ça compte. Et 1917, je suis désolé, mesdames et messieurs, mais ça compte. Donc, 1917, d'après moi, on va surtout parler de la réalisation au lieu de l'histoire.
Oui. Le 1917, dans le fond, c'est l'histoire est bien simple. C'est deux messagers qui sont envoyés pour prévenir un bataillon qu'ils vont tomber dans une embuscade. Puis c'est ça. Dans le fond, le film est quasiment tourné en temps réel.
C'est littéralement leur journée, leur marche, leur longue marche du point A au point B.
Mm-hmm.
Et tout le film est monté. Et tout le film est monté de manière à ce que ça fasse comme, mettons, un long plan séquence. Comme dans Birdman. Hein?
Oui, mais c'est moins bien fait que Birdman.
Ouais, c'est moins bien caché que dans Birdman. Ouais. Mettons, dans 1917, c'est très évident les endroits où il y a des cotes. Mettons, des fois, le personnage, il marche devant le personnage, il marche et tout à coup, il va avoir une grosse roche qui va arriver dans le plan. Là, tu le sais exactement qu'il y a eu un cote à cet endroit-là.
Oui.
Ou bien, mettons...
Il y a du CGI qui embarque, à un moment donné, fait que tu sais qu'il y a une cote là, à un moment donné, il y a un cote tout black, fait que... Bien sûr.
Il y a un bout vraiment en lettre où le personnage, malheureusement... Là, on parle des défauts, mais inquiétez-vous pas, on s'en va quelque part avec ça. Il y a également un bout vraiment en lettre où le personnage, il saute dans une chute d'eau, et c'est très évident, très voyant, que c'est juste un petit green screen.
Mm-hmm.
Et ça me distresse, ça. Je trouve ça incroyable qu'on soit maintenant en 2020 et... Des fois, t'es encore capable d'avoir des effets spéciaux faits par l'ordinateur qui ont l'air tellement fake. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment incroyable.
Mm.
Ça me tue. Je me rappelle aussi dans le film The Imitation Game, il y avait un moment où je pense que tu voyais des avions qui attaquaient et c'était, je te niaise pas, là, du CGI de genre 2002. Là. Je voyais ça, là. Je trouvais ça aberrant. J'étais dans le cinéma, j'étais comme... Ça m'a distrait un petit peu du film. Ça m'a distrait un petit peu du film, mais d'un autre côté, t'sais, c'était juste un petit moment dans Imitation Game. C'est comme dans 1917, le bout de quand il saute dans la chute d'eau, c'est également un tout petit moment, et ça distrait pas trop du reste du film.
Moi, j'ai aimé le film, mais je l'ai pas mis dans mes films de l'année. Je pense, je sais même pas si je vais le mettre dans mes mentions honorables.
Sacrilège! Moi, j'ai adoré 1917.
Moi, j'aimais ça, mais je trouve ça bizarre le fait que tu montres la guerre... La Première Guerre mondiale, qui est comme un effort collectif, mais tu montres ça juste du point de vue de deux personnes. Tu fais juste suivre deux personnes, ça fait paraître comme si la guerre, c'était... Mettons, puis ils passent à côté de bataillons, puis de soldats, puis tout, puis c'est comme si tu le remarquais pas.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, ça me fait pas. Tu sais, quasiment penser un peu à la vraie vie. Tu sais, le personnage, il est sur sa journée. Et sur le chemin, il rencontre des personnages.
Eux aussi sont en train de faire leur journée.
Qui aussi sont en train de faire leur journée. Et tu ne revois plus. C'est comme dans le moment où il embarque dans le camion avec les soldats.
Ouais, ouais.
Moi, je pouvais être, moi, j'étais certain qu'à ce bout-là, il allait se faire attaquer et il allait avoir une scène d'action. Non, pas en tout. Il est dans la voiture, il est dans le camion, il parle un peu. Là, tout à coup, leur camion reste pogné dans la boîte. C'est que là, il pousse, il se met tout à pousser, rembarque dans le camion. Et après ça, il arrive dans une impasse. Puis il dit aux soldats, bonne chance, bonne chance, bonne chance, serre la main. Il repart sur sa journée, t'y vois plus.
Oui, c'est vrai.
Puis aussi, un truc que je vais dire, un point que je vais dire sur ce film-là, le réalisme est assez frappant,
oui.
Je trouve. La première fois, les premières... Je vais t'avouer que les premières 30 minutes du film, j'ai trouvé que c'était les meilleures.
Oui, moi aussi.
Parce que, tu sais... Spoiler, spoiler, désolé tout le monde. 3, 2, 1. Dans le film, il y a deux personnages, mais il y en a un des deux qui meurt. Et j'ai trouvé que le film était beaucoup plus fort quand les deux personnages étaient vivants, quand les deux personnages étaient ensemble. Le bout, quand ils partent du camp, qu'ils vont rencontrer le général, et ensuite ils quittent la tranchée, ils se rendent dans le bunker, le bunker s'écroule, et finalement ils se rendent dans la petite maison où l'avion se crache. Je te jure, le film m'a tellement accroché. Oui. Là, ça y est, j'étais avec le film à 100%. Le bout quand ils sont dans la mine, et il y a le petit roc et il y a le gros roc qui marche, puis « Oh non !» Puis il accroche une mine, puis ça explose, puis tout le truc manque s'effondrer. J'ai tellement trouvé ça intense. Puis aussi, le film, là, une chance que Smell-O Vision, ça n'existe pas. Parce que sérieux, là, je vais t'avouer, là, quand ils sont dans les tranchées, puis t'es vois... marcher dans la boîte, marcher dans les
badlands. Tu vois les cadavres pognés dans les barbelés.
Marcher dans les badlands. C'est quand ils sortent des tranchées pour la première fois. OK, allons-y. Puis ils vont, là, puis tu vois les badlands, tu vois les barbelés, tu vois les cadavres qui se décomposent. Ça pue. Ah, ça pue. Le gars, là, comme un moment donné, il se coince la main, il se tranche la main avec du barbelé. Puis il fait comme tomber dans son petit trou, puis il met sa main directement dans le chest d'un cadavre. Puis après ça, il y a une main genre... Tu vois ça, là, dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, attention, ça va s'infecter. »
Oui.
C'est tellement... On dirait que tu peux sentir la puanteur des tranchées, l'odeur de la mort.
Oui, le réalisme est vraiment là dans le film, puis les détails aussi, puis les environnements. Puis c'est un gros film. C'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait.
Si, mettons, le soldat Ryan est le film phare, de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que celui-là, ce serait le film fort de la Première Guerre mondiale.
Il n'y en a tellement pas beaucoup des films sur la Première.
Il n'y en a pas beaucoup. T'sais, le seul que j'arrive à penser, Joyeux Noël, puis All Quiet on the Western Front.
Ouais.
Je pense, quand je parle de films de guerre, de Première Guerre mondiale, je pense surtout à eux autres. Mais je me souviens pas en avoir vu un. Je suis sûr qu'il y en a. Mais je me souviens pas en avoir vu un qui traitait la Première Guerre mondiale comme ça, genre... Sérieux, là, puis... Ah, tu vois, c'est... Ah, c'était misérable. C'était tellement misérable. Tu voyais, c'est le monde qui ont froid, le monde qui fume des cigarettes, tu sais, puis dans leur tranchée, puis qui sont misérables, qui sont blessés sans bon sens. Ah, ça devait être la définition de l'enfer. Et ce film-là, c'est vraiment tête première, direct en enfer.
Bon, fait que pour la 8e position, pour moi...
Mm-hmm.
Il s'agit du film Joker, réalisé par Todd Phillips.
Seulement 8e position?
Désolé.
You're killing me, Fred. You're killing me.
Joker, ben n'empêche, il est dedans.
Oui.
C'est ça qui est important.
Il est sur la liste. C'est au moins
un super bon film.
C'est au moins ça. Moi, il est un peu beaucoup plus bas.
Moi, c'est, dans le fond, c'est Joker, réalisé par Todd Phillips, mettant en vedette Joaquin Phoenix. C'est le film...
Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de l'histoire?
Sur l'histoire du Joker?
Je pense
qu'on en avait déjà parlé à une autre émission.
Ouais, puis je crois qu'on en a pas vraiment besoin d'en parler parce que le film a ramassé 1 milliard au box-office.
Oui.
Mais on va quand même en parler un petit peu. Ça va être un sujet à débat plus tard. T'sais, dans les deux Jokers réalistes, lequel était le meilleur, Joaquin Phoenix ou Heath Ledger? C'est un débat qui devrait pas exister, mais tu sais que... Il existe parmi les nerds parce que let nerds be nerds.
C'est que bien sûr que ce débat-là
va avoir lieu.
Mais le film est excellent. Ça fait très Taxi Driver. Ça fait très réaliste. C'est, c'est... Ça montre Gotham City comme étant un trou. Ça fait très New York City des années 70. Encore une fois, Taxi Driver, French Connection, puis, etc.
Puis aussi dans le film, il mentionne... il y a des... il y a des ordures partout. Il y a des rats géants.
Ouais.
Que tu vois à la toute fin pendant une seconde, les rats géants. Quand je les ai vus dans le cinéma, j'étais mort de rire. J'ai un câline. Ils ont pensé à finalement nous montrer les fameux rats géants dont tout le monde, dont les nouvelles parlent pendant tout le film. J'ai vraiment adoré ça. Bref, Joker. T'sais, Joker, c'est un film que, auprès des critiques, ça a été quand même bien reçu. Ça a été bien reçu. Mais c'est surtout. S'il y avait un Oscar pour, mettons, choix du public, je trouve que, d'après moi, ça serait celui-là qui gagnerait haut la main. Et ce serait lui qui devrait gagner haut la main. Là, on va vous dire, « Oh, mais Avengers Endgame... » Ah, chut.
Shut your trap.
Chut. Bouche fermée, cul sur la chaise, s'il te plaît. Dans ton coin. Non. Dans ton coin. Allez. Bouge. Quelque chose de différent, autre qu'un film de super-héros. Ça fait toujours du bien, ça, mesdames et messieurs.
Bon. Fait que Joker, pas besoin d'en parler plus, je pense que tout le monde l'a vu.
Ouais.
Huitième position pour toi, François.
Huitième position, moi, c'est Histoire de jouer 4. Oui, je le sais, là, vous pouvez vous dire, bon, François qui met un film de Disney sur sa liste. Eh bien, oui, Jacques Yes.
Pixar, c'est un film de Pixar.
Oui, c'est un film de Pixar, mais il est beaucoup plus Disney que Pixar, celui-là.
Tu trouves?
J'ai trouvé, oui.
Moi, je trouve qu'il fait très Pixar, justement, avant que Disney mette leur sale patte sur tout.
Non, moi, j'ai trouvé que celui-là faisait très 50-50 Pixar et Disney. Surtout dans... Et j'avais déjà parlé de ça avec toi. Je sais pas si tu te souviens, j'ai déjà parlé sur ce point-là. Dans Histoire de jouets 1, 2 et 3, surtout 1 et 2, les humains, quand tu les vois, leur visage, ils font très humain. Ils ont des traits physiques très humains. Mais à partir des Histoires de jouets 3 et beaucoup dans le 4, à chaque fois que tu vois un humain, ils ont toujours les traits de Disney, genre les gros yeux, les grosses faces expressives. Tu vois ce que je veux dire?
Faut bien que le 250 millions de dollars serve à quelque chose.
Ouais, je le sais, mais... mais c'est bon, point. J'ai trouvé que, justement, Histoire de jouets 3 et 4 faisaient très, très Disney tous les deux. Mais ça n'empêche pas le fait que Histoire de jouets 4, je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé excellent, peut-être même meilleur que le troisième. Oui, je le sais, c'est un assez gros statement que je fais là, mais j'ai trouvé que Histoire de jouets 4 était légèrement meilleur que le troisième.
J'ai trouvé ambitieux.
Histoire de jouets 4?
Ouais.
Il est très ambitieux, puis aussi... c'est comme, mettons, un épilogue.
Ouais.
Tu sais, c'est un épilogue. C'est pas vraiment... Tu sais, Histoire de jouets 3, c'était le chapitre final, mais celui-là, c'est un épilogue. Et je vais être honnête, je pense pas qu'il puisse en faire d'autres.
Non.
De la manière que ça finit, je pense pas... Je spoilerai rien, mais je pense pas qu'il devrait en avoir d'autres. Et aussi, il faut que j'avoue quelque chose avec Histoire de jouets 4, et ça me fait mal au cœur de l'avouer, parce que mon manlyhood sans pareil va en prendre un coup. Parce que vous le savez, mesdames, à quel point je suis un gros papa ours. Non, c'est une blague. Mais oui, il faut que j'avoue quelque chose. C'est un des seuls films dans ma vie. Si c'est pas le seul film dans ma vie où j'ai pleuré en voyant ce film-là. Je veux juste dire, la situation, c'est, si vous l'avez vu, c'est le moment où la poupée méchante... dans le film, il y a la méchante devient finalement gentille. La méchante du film, c'est une vieille poupée qui s'appelle Gabi Gabi. Et un moment où ça finit bien pour elle. Tu sais, les méchants d'histoire de jouer, ça finit jamais très bien. Tu sais, Sid...
Lotso,
ensuite le vendeur dans Histoire de jouets 2, puis aussi comment il s'appelle déjà?
Le prospecteur,
ça finit jamais très bien. Ouais, ça finit jamais très bien. Mais par contre, pour la méchante dans Histoire de jouets 4, ça finit assez bien. Puis, wow, ça va tellement tirer les larmes en bas des marches, là. Sérieux, j'y repense, j'en ai des frissons à cette scène-là. Tu sais, quand tu parles... un moment d'un film là, qui est vraiment magique. Là. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était magique, ce bout-là. C'était pas des larmes. Quand j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré, mesdames et messieurs. Là. C'est pas des larmes, genre, mettons, des larmes de tristesse. C'était des larmes de joie. Genre, c'était tellement beau comme moment. C'est tellement touchant là, que c'est vraiment juste, oh, regarde, ouvre les valves, laisse-toi aller. En tout cas, bref, histoire de jouer 4 est en 8e position sur la liste de François.
Puis là, en 7e position, surprenamment, on a les deux le même
film. Oui, on a tous les deux le même film. Et là, on va parler d'un film, d'après moi, que vous avez pas du tout entendu parler. Genre zéro. C'est un film qui est sorti, malheureusement, il est pas sorti en salle au Québec. Et le film a
Il est sorti direct en vidéo et il est sur Amazon Prime.
Ouais, et il est sur Amazon Prime, mais il est sorti en cinéma en sortie extrêmement limitée aux États-Unis. Le film a ramassé à peine de quoi pour s'acheter du pain, là. Le film a coûté quelques millions à faire. C'est pas, mettons, un méga budget de 30 millions. Non, ça a coûté genre... C'est un film avec un budget assez léger. Mais par contre, ce qui a ramassé au box-office, c'est vraiment minable. Je pense que c'est même pas rendu à $1 million au box-office.
Tu penses?
Dans le fond, le film, c'est le film Dragged Across Concrete, réalisé par S. Craig Zoller.
Oui, mettant en vedette Mel Gibson et Vince Vaughn. S. Craig Zoller, qui est un réalisateur à surveiller.
Oui, absolument. Si vous avez jamais vu le film Brawl on Cell Block 99, vous devez le voir. Et surtout, si vous n'avez jamais vu le film Bone Tomahawk, je vous le suggère énormément. Je crois que dans mes films de la décennie, il serait peut-être dedans, dans mon top 10, Bone Tomahawk. C'est le meilleur western de la décennie, j'ai trouvé. Bone Tomahawk.
Mieux que Django?
Oh mon Dieu, tu vois pas ça! Facilement top 3. Ok, t'aurais Django en numéro 1, Hateful Eight en numéro 2, et en 3, t'aurais Bone Tomahawk. Bone Tomahawk, qui est un film d'horreur, c'est horreur et western, un parfait mélange des deux.
C'est vraiment, en fait, les films de S. Craig Zoller sont un peu dans le même style que Eli Roth, un peu, où c'est que c'est des films qui rendent hommage comme un genre de film d'exploitation. Mais l'affaire, c'est que S. Craig Zoller, c'est un écrivain...
C'est fait avec classe. Oui. Et c'est un écrivain hors pair. Premièrement, S. Craig Zoller a déjà écrit plusieurs romans.
Oui, principalement, c'est un romancier. Fait que les dialogues sont très... sont très
bizarres.
Oui,
sont très quirky.
Ils font romans, ils font pièces de théâtre même, des fois. Puis c'est des films qui sont... trash, mais qui sont vraiment bien faites.
Ils sont faites avec classe.
Et ces films vont toujours contenir une scène qui est extrêmement gore et graphique.
Ouais.
Et Bone Tomahawk, sérieux, là, vous êtes pas prêts pour la scène de...
Non. Dans le fond, l'histoire de Bone Tomahawk, si vous savez pas c'est quoi, c'est des cowboys contre des cannibales. Là, vous devez vous dire... quoi? Attends un peu. C'est un des meilleurs westerns de la décennie.
Oui.
Oui, absolument. Absolument, vous... Vous devez voir Bone Tomahawk. Si vous n'avez jamais vu Bone Tomahawk, il faut que vous voyez ce film-là. Mais maintenant, revenons à Dragged Across Concrete. Dans le fond, l'histoire, c'est deux policiers.
C'est deux policiers qui font une descente dans un bloc appartement et qu'ils brassent un peu un des criminels, mais ils se font capturer en vidéo à cause de ça.
Par un voisin.
Par un voisin.
Que tu ne vois jamais.
Oui, puis ils voient ça comme... deux policiers blancs qui attaquent sans merci un pauvre...
Quelqu'un de minorité.
Oui, une minorité.
Ça fait que les deux se font suspendre.
Malgré que le gars, il avait bel et bien de la drogue chez eux. Et c'est comme, vous avez utilisé de la force excessive, nanana. Les deux sont suspendus. Et les deux ont comme des backgrounds assez particuliers. Il y en a un des deux qui vit dans un quartier défavorisé puis qui veut déménager parce que sa fille, ça fait 5 fois qu'elle se fait agresser en peu de temps.
T'sais, en se rendant chez elle.
Oui.
Puis l'autre... Vince Vaughn, pour quelle raison il a besoin de l'argent déjà?
Parce qu'il veut marier sa copine.
Oui, parce qu'il veut marier sa copine. Les deux ont des raisons, ont des bonnes raisons. Ça fait que vu qu'ils sont suspendus sans paye, ils décident de faire un petit coup rapide. C'est ça qu'ils décident. Ils décident de faire un petit coup rapide pour essayer de se faire une passe de cash rapide. Mais malheureusement,
par un petit coup rapide, on veut dire quelque chose de pas très légal.
Oui, un petit braquage, si on veut. Et ça tourne mal. Parce que bien sûr que ça tourne mal. C'est un film policier. Ce film-là montre un peu les espèces... Tu sais, dans les films policiers, souvent, t'as l'espèce de Hollywood... Le Hollywood tough guy cop, là, genre, mettons, qu'on voit beaucoup dans les films, genre le policier que c'est un marginal, que je n'obéis qu'à ma propre loi, genre. Ben, ce film-là, ça fait comme montrer ce genre de personnage-là. Malheureusement, c'était malheureusement, ces personnages-là, en 2019, c'est difficile. C'est difficile d'être un tough guy policier de nos jours. Tu sais, ça montre, t'sais, le gars, il rough juste un peu, ils se font capturer sur vidéo.
Ouais.
Ils sont pris pour des, ça s'en va à la télévision, ils sont pris pour des racistes. Puis ils sont suspendus.
Oui.
Ils sont suspendus. Ça montre, c'est comme un peu une déconstruction du policier hollywoodien, un peu, oui. C'est, si on veut, ce
oui,
film-là.
Oui, puis j'ai aimé aussi le commentaire que le film fait sur le racisme en général.
Oui.
Où est-ce que chaque...
Ça, faut en parler.
Chaque personne du film, que ce soit les deux policiers blancs ou les personnages afro-américains ou les personnages latinos, tout le monde est un peu raciste à sa façon.
Oui.
Puis j'ai l'impression que le film, ce qu'il essaie de dire par rapport à ça, c'est que quand même qu'on essaie de l'échapper, on dirait que tout le monde l'est un peu.
Tout le monde est un peu raciste. Et aussi,
tout le monde l'est un peu, genre, dans des situations de panique, le monde dit des choses, puis ils font des choses qu'ils pensaient pas faire et que normalement, ils feraient pas. Puis aussi, j'ai aimé aussi le commentaire que ce film-là dit sur des jobs comme, mettons, les policiers, que c'est des gens qui sont sous-payés.
Ouais.
Puis que, tu sais, là, c'est un job quand même important, puis c'est un job qui est quand même assez dangereux.
Ben, si c'est important, c'est extrêmement important d'être policier. T'sais, c'est eux qui s'occupent de la loi et l'ordre. Tu sais, sans policiers, on...
C'est l'autorité.
Sans policiers, on retourne à l'âge de pierre, retourne à l'anarchie totale.
Ils représentent l'autorité, puis à quel point ils sont sous-payés, ces gens-là.
Puis aussi, tu parlais aussi du racisme. Le film montre aussi qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir raciste.
Oui, c'est ça. C'était vers ça que je voulais m'en aller. Merci, Franck. Ce film-là pose la question, c'est qu'est-ce qui peut pousser, à la place de pointer le doigt à quelqu'un qui est raciste et dire « toi, t'es raciste, nanana », ça pose la question que pas beaucoup de gens posent, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir raciste? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, genre, devient là intolérant? Puis ça pose cette question-là quand même assez, tu sais, là, de manière quand même très intéressante. Puis c'est pas... Ça prend pas le bord du monde en disant « Ah non, ils sont corrects d'être racistes. » Non, 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 pas du tout.
C'est très intéressant. Puis aussi, les personnages, ils ont toutes leurs petites particularités. Hein. Tu sais, les personnages, comme tu dis, les dialogues sont très romans. Il y a aussi un moment où... il y a énormément de scènes dans le film où il ne se passe rien. Où techniquement, il ne se passe rien.
C'est juste un des personnages qui mange un sandwich.
C'est genre, mettons, les deux personnages qui parlent. Genre, mettons, il y a un bout où Vince Vaughn, il mange son hamburger. Puis il y a vraiment, tu sais, de l'importance dans le son. Et quand il mange, ça fait... Puis Mel Gibson, il dit... Ouais, je viens de penser les dernières 90 minutes à te regarder manger ton burger. Puis Vince Vaughn, il dit... Ah, oh, ben désolé. Moi, il y a du monde qui mange rapidement. Moi, je mange lentement. Moi, j'en profite pour savourer mon burger. Puis... Il prend encore une fois une bouchée de son burger. C'est vraiment, il y a énormément de dialogues comme ça qui sont très amusants. Aussi, un truc qui est extrêmement amusant dans le film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sacres, surprenamment. C'est un film extrêmement violent, mais il n'y a pas beaucoup de sacres. À chaque moment où les personnages doivent dire, mettons, shit ou mettons, fuck, au lieu de dire ces mots-là, ils disent quelque chose comme Vince Vaughn, il a son expression, il dit anchovies.
Anchovies.
Puis Mel Gibson, il dit crotte.
Ouais.
J'ai vu ça, j'ai tellement trouvé ça particulier aussi. La femme de Mel Gibson est handicapée.
Oui.
C'est une policière aussi, mais elle peut plus être agent de police parce qu'elle a eu un accident avec sa jambe.
Jouée par l'actrice qui joue Audrey ou Andrea?
Audrey. Andrea.
Andrea dans Walking Dead. Elle joue exactement pareil.
Mais au moins, son personnage est attachant. Honnêtement, j'avais tellement pitié pour elle. Quand elle parlait, « Oh, je peux plus travailler. » T'es genre, « Oh, pauvre elle. Mm. » Encore une fois, on ne spoil pas la fin.
Non.
Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un excellent, excellent thriller.
Oui, puis ça prend pas l'audience pour des cons.
Non, vraiment pas. C'est un film. C'est extrêmement intelligent. C'est extrêmement intelligent comme film. Aussi, comme film, c'est très long. Ça dure 2h30. Mais je vous le jure, jamais vous allez voir un 2h30 passer aussi vite. Mm. Sérieux, le film, là, on était rendu à la fin. J'étais sûr que le film durait genre depuis 100 jours qu'une heure et demie. Le film passe tellement vite et ce n'est jamais ennuyant.
Oui.
Sérieux, là.
soit c'est le jeu des acteurs, soit c'est les dialogues, soit c'est la réalisation, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant qui
ouais,
se passe.
C'est avec si on... Il fait partie exactement de la même lignée que, mettons, Quentin Tarantino. Les réalisateurs que... Leur grosse force, c'est les dialogues. Ils font tellement des bons dialogues poignants, des dialogues noirs, puis en pulp. Mm. C'est vraiment classique. Ça, ce film-là, là, moi, je prédis un truc. Ça, c'est un truc que plus tard, ça va devenir un classique.
Oui.
Ça va devenir un film culte. Comme Bone Tomahawk, ça va devenir un film culte. Il y a du monde là, qui plus tard... Là. C'est extrêmement, comme on dit en anglais, c'est extrêmement quotable aussi comme film.
Oui.
Il y a énormément de dialogues qui te restent dans la tête, puis tu vas les répéter genre à tes chummies, puis tu te dis « Ah, tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça? Hein? » Tu sais, c'est... Il y a énormément de dialogues qui te restent dans la tête. C'est un bijou. C'est la définition d'un bijou, ce film-là. Je vous le conseille à 100% Dragged Across Concrete avec Mel Gibson et Vince Vaughn, réalisé par S. Craig Zoller.
En sixième position, maintenant.
Oui, en sixième position, on a tous les deux films très différents. Moi, c'est...
El Camino,
A Breaking Bad Story. Mais Frédéric, d'après moi, on va passer beaucoup de temps sur le tien. C'est que vas-y, introduis-nous vers ce chef-d'œuvre.
Il s'agit du film The Lighthouse, réalisé par Robert Eggert.
Le réalisateur de notre meilleur film de 2016.
The Witch.
Il revient ici 3 ans plus tard avec un autre chef-d'œuvre. Mon Dieu, cet homme est une... La machine! On a eu une belle décennie pour des nouveaux réalisateurs. Hein? Mm-hmm. Steve McQueen, Robert Eggers, S. Craig Zoller,
Barry Jenkins,
tous des magnifiques nouveaux talents. Denis Villeneuve.
Oui.
Tous des magnifiques nouveaux talents. Mais celui-là, mesdames et messieurs, celui-là est à surveiller. Vas-y, Frédéric, raconte-nous l'histoire de The Lighthouse.
Dans le fond, c'est bien simple. C'est deux personnes dans les années 1800 qui sont pognées pour travailler sur un phare.
Années 1800, peut-être genre tout début 20e siècle, fin 19e ouais. siècle.
Dans le fond, c'est du monde qui sont pognées pour surveiller un phare, puis travailler dessus, l'entretenir.
C'est deux gardiens de phare.
Deux gardiens de phare sont joués là pour travailler.
Joués par.
Willem Dafoe et Robert Pattinson.
Ça en est bien sorti après Twilight, ce gars-là.
Oui. Puis, dans le fond, ils sont payés pour travailler dessus pendant 6 semaines, et après 6 semaines, quelqu'un arrive, les ramène chez eux. Mais l'affaire, c'est que la personne qui est censée venir le chercher n'arrive jamais. Et... les choses commencent à mal tourner.
Les deux sont coincés là au phare et ils commencent un peu à virer fou.
Oui.
C'est un peu comme The Shining, ce film-là. En fait, c'est le film auquel ça m'a fait le plus penser, c'est The Shining. Les deux personnes qui sont isolées sur le phare et qui virent totalement dingue.
Je tiens à dire sur The Lighthouse que c'est le film le mieux tourné de 2019. L'image est écœurante.
C'est, encore une fois, c'est scandaleux que trois snobs pour ce film-là. Meilleur réalisateur aux Oscars, Robert Eggers, pas nominé. Meilleur acteur, tous les deux, aucune nomination.
Robert Pattinson
est hallucinant. Willem Dafoe dans ce film-là est hallucinant.
J'ai aimé à quel point, dans ce film-là, les personnages sont complexes.
Oui, ils sont extrêmement complexes.
L'image est magnifique. La musique, le son du phare, là.
Il y a quasiment pas de musique pendant tout le film. Puis les bouts où Robert Pattinson, il travaille. Puis t'entends le gros du phare. Tout ce que t'entends, c'est ça.
Ouais.
Et ça donne tellement une ambiance.
Celui-là est incroyable.
C'est genre... C'est un film qui est dur à catégoriser. Est-ce que c'est comédie? Parce qu'il y a des bouts qui sont quand même assez drôles.
En fait, je vais le dire tout de suite.
Est-ce que c'est comédie? Est-ce que c'est film d'horreur? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une anomalie, ce film-là?
En tout cas, je vous le dis carrément, j'ai mis ce film-là en sixième position. Mais ça se peut très bien qu'il remonte dans la semaine prochaine qu'on va faire position 5 à 1. Ça se peut très bien qu'il remonte encore parce que j'y repense à ce film-là. Puis...
Désolé, Frédéric, il est en sixième. Il doit rester en sixième.
En tout cas.
Désolé. Non, Fred, non.
Ouais,
non.
T'as raison.
Moi, j'ai prévu mon coup. Moi, il est beaucoup plus bas. Ça fait
désolé.
Ouais, comme t'as dit, au moins, il est sur la liste.
Oui, c'est ça. C'est ça, au moins, il est sur la liste. Ce film-là est hallucinant. C'est... j'ai aimé à quel point les personnages sont complexes, mais en même temps, de la manière qu'ils ont écrit, c'est, on dirait que ça a tellement l'air simple. Les deux, c'est des contraires. Il y en a un qui est vieux, il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est expressif, il y en a un qui est qui l'est pas.
Qui est un peu plus genre col bleu, il veut plus genre je fais ma job, laissez-moi ouais. tranquille.
Après ça,
un est social, l'autre l'est pas.
Il y en a un qui est très superstitieux, l'autre l'est pas du tout.
hyper superstitieux, tu vas dire. Un pète beaucoup, l'autre pète pas du tout. Et oui, en passant dans ce film-là, il y a des bouts où Willem Dafoe...
Il te lâche, ça, c'est une pète, là.
Oui, il y a même une scène, justement, où...
Direct au début du film.
Il y a même une scène, justement, où Robert Pattinson, il fait comme péter un câble, puis il dit tous ses défauts à Willem Dafoe, puis il dit « Ah, oh, tu pètes, ça pue! Oh, de ce ça pue! C'est dégueulasse! » Puis il chiale aussi sur sa bouffe. Elle est bonne, ma nourriture!
» C'est pour ça que je dis... C'est darkly humorous.
Oui, c'est de l'humour. Tu sais, c'est pas de l'humour wink-wink ou ben ah, on va garocher des références là à Rihanna, à la Marvel. Non, c'est très...
Quoi? C'est random.
Non, mais c'est vrai, mettons, dans Doctor Strange, tu vas garocher une joke. Oh, j'ai tellement l'air badass. Ouais, tu ressembles à Rihanna.
Quoi?
Ah, frère, c'est ça la joke. Hey, Doctor Strange a dit Rihanna, t'as pas une tue. Mais là-dedans, c'est genre, c'est très particulier comme mot, tu sais, justement, tu sais, Willem Dafoe, il lâche des pets.
Oui, puis c'est tellement de base comme joke, quelqu'un qui pète, mais l'ambiance est tellement lourde que quand t'entends un pet, ça sent tellement de nulle part que ça fait que c'est drôle.
Ouais, puis aussi, le bout, quand les deux se font.
Quoi?
Quoi? les deux font ça, ils font what? Puis ça s'empile l'un vers le solo. Il y a tellement de scènes dedans, il y a tellement de scènes. Sérieux,
c'est un film que je vais acheter.
Moi aussi, c'est des scènes, ces genres de films, c'est dur de décortiquer chaque scène une par une parce qu'on va être là éternellement parce que chaque scène est mémorable. Chaque plan est comme une peinture. Une magnifique peinture. Le bout de quand... Willem Dafoe, il poursuit Robert Pattinson avec la hache, genre, puis il boite. C'est tellement, genre... Ça fait tellement, genre, Shining.
Ah, oui.
C'est quasiment comme le Shining de la décennie 2010. C'est tellement bon. J'ai de la misère à dire... J'ai de la misère à trouver d'autres choses à dire pour donner encore plus d'applaudissements à ce film-là.
Mais en même temps, c'est tellement particulier parce que c'est un film que tu vois puis tu dis... C'est tellement hypnotisant, sérieux. Je pense qu'on a écouté le film, ça a été le silence total tout le long.
Ah, on n'a pas dit... je pense qu'on n'a pas dit un mot à part, mettons, des... Wow!
Ouais.
Des trucs comme ça.
Genre, t'écoutes le film puis après ça, quand ça finit, tu trouves ça bon, mais tu y repenses. C'est un film qui reste avec toi, c'est écœurant.
C'est un film que, mettons, tu peux regarder et te dire « Ah, moi je pense que ce film-là, ça veut dire ça. Ah, moi, je pense que ça veut dire ça. » Parce qu'encore une fois, ça... le film, c'est un film que tu peux étudier. Tu sais, mettons, il y a plusieurs théories sur le film. Mettons, est-ce que c'est un rêve? Il y a également la théorie à propos, également, tu sais, Prometheus, la mythologie, là, tu sais, pas le film de Ridley Scott.
Non.
C'est la mythologie de Prometheus. C'est un film extrêmement profond.
Oui.
C'est extrêmement profond. C'est ce que tu vois n'est pas nécessaire. T'sais, à chaque fois que tu vois quelque chose dans le film, ça veut dire quelque chose. Le film veut dire quelque chose.
Ouais.
Chaque truc dans le film a
une raison d'être là.
Oui, a une raison d'être là, a une raison d'être. C'est absolument hallucinant comme film. Et puis ce gars-là, là, Robert Hager, c'est seulement son deuxième film. Hein.
Comment oses-tu avoir autant de talent?
Comment oses-tu avoir autant de talent avec ton deuxième film? Là? Mettons, M. Night Shyamalan, là, on le trouvait bien talentueux avec Le Sixième Sens puis Unbreakable. T'sais, mais là, c'est genre, man, t'as genre The Witch puis The Lighthouse, c'est... Comme tes deux premiers films, c'est tellement là, la filmographie de ce gars-là. C'est ça, c'est un réalisateur là. À chaque fois qu'il va sortir un film, il va falloir que je le voie là. T'sais, puis je faisais la comparaison à M. Night Shyamalan, parce que M. Night Shyamalan, il a sorti Le Sixième Sens, ça a été un méga succès, puis ensuite, il a fait Unbreakable. T'sais, après ça, le monde pensait que ce gars-là, il pouvait, comme on dit en anglais, « he could do no wrong ».
Oui.
Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Non. Le fameux M. Night Shyamalan, encore une fois, on va espérer que Robert Hager ne tombe pas dans le même piège et que lui, il nous sort chef-d'œuvre après chef-d'œuvre après chef-d'œuvre après chef-d'œuvre après chef-d'œuvre.
Puis please, s'il te plaît, fais pas de film de super-héros.
Ah, pitié! Pitié, hey, tu imagines-tu?
Nous voulons te faire 500 millions de dollars pour faire Ant-Man 3!
C'est ça. On fait un beau petit salaire de 3 millions pour faire Ant-Man 3.
Non, 500 millions.
Ouais. Ça, c'est juste son salaire.
Ah, genre. Ouais.
Ah, oh, le budget, c'est quoi? Ah, oh, c'est 1 milliard. Le film va facilement se rendre à 4 milliards au box-office.
Parce que Ant-Man, c'est malade!
Parce que Marvel, consommé!
C'est comme des livres, genre, Disney.
Fait que voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Mais on va faire un dernier petit retour. Oui. Toi, ta liste, vas-y.
Top 10, numéro en 10e position, Dolemite. Dolemite is my name, Franck.
Moi, 10e position, c'est Pet Sematary.
9, El Camino.
9, 1917.
8, Joker.
Numéro 8, Histoire de Joie 4.
7, Dragged Across Concrete.
Et 6e position, pour moi, c'est El Camino, A Breaking Bad Story.
Et moi, c'est The Lighthouse,
réalisé par Robert Egger. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour position 5 à 1. Et laissez-moi vous dire, vous allez voir quelques surprises.
Mm-hmm. Fait qu'on va se terminer avec l'émission Nothing is Safe de Clipping. C'était Fred.
Attends, on termine l'émission, tu veux dire, on termine l'émission en chanson.
Oui, on termine l'émission en chanson avec la chanson Nothing is Safe de Clipping. Ici Fred.
Et Franck.
Qui vous souhaite bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé l'émission.
Everyone safe and sound, this our family do. Only homies around, everyone here is crew. Something foul in the air, something feeling askew. Wind is in the pipes, it's that whistle calling for you. Don't holler, it's cool. Windows boarded and sealed, doors are bolted and locked. Product cooking on pace, weaponry fully stocked. Bodies sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot. The pop, drop, the lights are dropped low. Something shot from the trees. Went straight through the front door. Homie dropped to his knees. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wooden floor stained wet gets off the more that he bleeds. He leaves, believed, didn't know when something was coming, but it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped, life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Cut the light and stay low. All is quiet and still. Peering through the window, staring over the field. Scent of death in the air, nothing out there looks real. Close the homie's eyes, now is not the time to be feeling. Really load up, furniture, low walls, barricade you inside. Lose the lights in the hallways, everyone gon' be fine. Phone that no one should call, starts to ring at one time. All the homies' eyes slide to it, then the ball split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hell. More homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere, in every throat screams and protest. You all are dying, and really will anyone care? Truth like death comes for everyone. Barely had to summon what was coming, it was creeping on a come up that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Death is coming for you, but you already knew that. Thought the clicker brought you some safety up in this pack, but that didn't add up. Back up, stand up, strike a pose. What you get up, that's what they like, you suppose. They go rack up, stack up, that stuff that you stole. But the fact of status wrapped up in black coat caskets cannot be ignored. Running so fast, it had an award. Homies got gas for cash from that score. Y'all could have made a dash just after one more. So you put up on the gas and smash round the corner. Only one man was sent to the coroner. Wasn't part of the plan, but damn, the fast forward whip was too quick to flip and fast forward. With the past smashed every wall, pillar, and floorboard. Ashes to ashes, dust in the lung. Fire down on everything, gasoline been poured. Last piece of action for you to come. Just catch a glance of what could have done this. Something about how we walks remind you of someone. You look and see a gun, a man with no face, a golden halo that could be the sun. Long ago you saw me, what was coming, it was creeping on a come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped life, slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you feel it. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred, nothing is safe, nothing to pray for, nothing is safe, nothing is, nothing is.